Vendredi 15 octobre, le bus de l'égalité marquait un dernier arrêt au collège Waldeck-Rousseau de Firminy après une tournée effectuée dans les collèges et lycées de Saint-Étienne Métropole dans le cadre des semaines de l'égalité. Le but de ce bus est, avec le concours d'associations et structures locales, de provoquer chez les élèves des réflexions autour de l'égalité homme-femme, des discriminations ou encore le harcèlement, cyber ou non. Radio Mondaine vous propose aujourd'hui un reportage sur ces ateliers du bus de l'égalité et ce sont tout d'abord Ryan et Miyase, deux élèves de 4e, qui nous parlent de sexisme.
Ce matin, du coup, on a eu une intervention contre le sexisme. On a parlé du sexisme, qu'est-ce que c'était, des stéréotypes des femmes et des hommes.
Alors, c'est quoi le sexisme ?
Faut parler ce qu'ils font les femmes, ce qu'ils font les garçons, et ce qui rabaisse les femmes et ce qui rabaisse les garçons.
Et pour moi, c'est quand on trouve que l'homme, il est supérieur à la femme. On a fait un tableau avec deux colonnes où on séparait l'homme et la femme. Et on mettait du coup toutes les choses qui nous venaient en tête quand on pense à la femme et à l'homme.
Par exemple, sur les femmes, il y en a, ils ont dit qu'ils faisaient tout le temps le ménage à la maison, à manger et tout ce qui fait la femme. Et le garçon, c'est lui qui se bat pour travailler, pour emmener des soins à la maison et pour régaler tout le monde.
Alors tout le monde pense ça ici ? Et après, quelles ont été les discussions ?
Parce que quand on a réfléchi en classe, on a vu que la femme aussi, elle pouvait travailler et que l'homme aussi pouvait garder les enfants, qu'il pouvait faire le ménage.
Aujourd'hui, vous allez assister à plusieurs ateliers à l'occasion des semaines de l'égalité. Et donc, le bus de l'égalité, c'est cet événement-là où plusieurs intervenants viennent. Qu'est-ce que vous avez imaginé avant de venir
Je sais pas, peut-être qu'il y a des trucs qu'on sait pas et qu'on aimerait bien savoir pour pas qu'il y ait de la discrimination.
Pour moi aussi, c'est contre la discrimination de tous, en fait.
D'accord. La discrimination, ça vous parle, en fait ? Est-ce que vous sentez autour de vous qu'il y a des gestes, des humeurs qui sont discriminantes ou l'on considère différemment plusieurs personnes ?
Oui, par exemple, il y a l'homophobie ou le racisme aussi. On peut en trouver partout.
D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui peut aussi vous marquer, vous ou vos camarades ? Est-ce que des fois, vous avez le sentiment d'avoir été traité différemment ?
Non, entre nous, on est tout le temps normaux. Et peut-être qu'il y a des gens qui font de la discrimination aux gens. Et lui, peut-être, il veut pas dire ou il y a quelque chose, ça se peut. Hein.
Pourquoi on discrimine, à votre avis ?
Parce qu'il y en a, ils aiment pas comment ils sont les autres gens. Et du coup, ça ne peut pas supporter.
Pour moi, c'est aussi par rapport à la mentalité des parents ou de la famille, ou même de l'ami de la personne, parce que c'est souvent ça qui offense aussi.
Lucille Combette est secrétaire générale de l'association Triangle Rose pour sensibiliser autour du sexisme et de la LGBT-phobie. Elle nous explique ses interventions.
Alors, on leur dit qu'on vient pour leur parler de sexisme, on leur demande une petite définition. En général, au collège, ils savent tous de définir plus ou moins. Et ensuite, du coup, je leur fais faire un tableau pour noter un peu tous les clichés et stéréotypes qu'ils peuvent avoir en fonction des normes genrées, en fait, de femmes et d'hommes. Et ensuite, on en parle, on essaie de reprendre chaque mot qu'ils ont pu écrire pour essayer de les déconstruire et de surtout chercher d'où ça vient.
Qu'est-ce qui ressort régulièrement, sans faire de stéréotypes ?
C'est toujours les stéréotypes de base, que les femmes sont plus douces, gentilles, sages, seraient plus intelligentes, le seul point positif, et qu'elles seraient du coup plus tournées vers les métiers du soin, toujours. Et les garçons, forts, virils, des guerriers, des voitures. C'est toujours les mêmes clichés, en fait.
Alors, une fois qu'on pose ça, pour décrire un peu ce que vous avez réalisé, c'est simplement deux colonnes où on va classer. Comment on déclasse tout ça et quels sont les mots qu'on choisit ?
Alors, du coup, pour les mots, souvent, je leur fais prendre les mots des métiers qu'ils pensent uniquement masculins ou féminins et je leur fais mettre dans l'autre genre, du coup, comme un garagiste, une garagiste, un des plus faciles. Et ensuite, chaque mot, on les déconstruit. Par rapport, par exemple, au sage-femme. Est-ce qu'il n'y a que des femmes sage-femmes ? D'où ça vient le mot sage-femme ? Femme de ménage aussi, on n'a plus le droit de le dire, on dit agent d'entretien. Les couleurs aussi. Je leur parle du coup de l'époque de Louis XIV où les couleurs étaient totalement inversées. C'était le rose pour les hommes et le bleu pour les femmes, par exemple.
En une heure, on ne change pas finalement ce qu'on a construit ou ce qu'on se construit ou comment ces jeunes-là débutent dans leur vie. Vous, quel sentiment vous avez après ces interventions-là et puis quel regard vous portez en fin de séance ?
Alors certes, en une heure, on ne va pas changer la mentalité de toute une classe. Plus ils sont nombreux, en plus c'est difficile de les toucher vraiment personnellement sur ça. Mais on a quand même des bonnes surprises à chaque classe. On a des élèves qui sont très déconstruits, qui ont déjà des idées sur l'égalité très intéressantes. Et si, si, des fois, on se heurte à des personnes très fermées, dès le plus jeune âge, en fait. Mais je pense que le plus important, c'est quand même de planter des petites graines de réflexion. On n'est pas là pour changer leurs idées. Je leur dis souvent en intervention, je ne suis pas là pour que vous soyez tous d'accord avec moi. Ce n'est pas le but, mais le but, c'est de réfléchir aux clichés qu'on a, nos stéréotypes, et de réfléchir d'où ils viennent. Et qu'est-ce qu'on peut changer ?
Ces sujets, le sexisme, les discriminations, l'égalité, font partie de la construction d'une personne et ont une place importante au sein d'un établissement scolaire. Nous interrogeons Rudy Jacquin, le principal du collège Valdec-Rousseau, qui nous fait part de sa réflexion autour des semaines de l'égalité.
Alors, je pense que ça s'inscrit suivant deux démarches. La première, c'est effectivement de mettre en avant une thématique qui est plus que jamais d'actualité. Évoquer le respect dans les relations amoureuses, évoquer le sexisme, évoquer les discriminations, évoquer le cyberharcèlement et notamment donc tout ce qui est tout ce qui a trait au phénomène de réseaux sociaux, etc. Je pense que ce sont ces thématiques-là qu'il faut particulièrement mettre en avant. Dans le cadre des parcours éducatifs des élèves. La seconde direction, c'est celle aussi d'un intérêt des élèves pour une forme de pédagogie un peu différente de celle qu'ils ont habituellement, des intervenants extérieurs, une participation active à ces séances. Certains élèves qui parfois sont en difficulté dans les cours dits classiques peuvent parfois aussi s'épanouir davantage dans ce genre de séances, et je pense que c'est pour eux l'occasion d'apprendre autrement, en fait.
La discussion autour de ces thèmes-là, comment elle se prépare en amont ? Est-ce qu'il y a quand même des mots qui sont proposés par l'équipe éducative avant de recevoir ces intervenants ?
Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des élèves de quatrième qui sont concernés. Ils ont déjà entendu parler dans les années précédentes de ces thématiques-là. Ils ont déjà eu des interventions. Ce sont des éléments aussi qui ressortent parfois dans les programmes scolaires, et notamment en EMC, enseignement moral et civique. La préparation, elle est faite en général par les personnels médico-sociaux. Les élèves ont été avertis en amont de cette intervention et ont pu en amont aussi poser leurs questions.
Vous parlez d'élèves de quatrième. Est-ce un choix de la part de l'établissement, ou est-ce que finalement ce bus de l'égalité, quand il s'arrête dans n'importe quel collège, on choisit cette classe-là particulièrement ?
Alors, je ne saurais pas vous dire si dans les autres établissements c'est sur ce niveau-là, mais ce niveau-là nous paraît pertinent. Ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on appelle les parcours éducatifs des élèves, hein, parcours de santé, parcours citoyen, parcours avenir, parcours d'éducation artistique et culturelle. Tout ça s'étale tout au long de la scolarité, et sur les 4 années de collège, le niveau 4e nous semble essentiel. Les élèves sortent, on va dire, un peu plus et un peu plus rapidement de ce que l'on pourrait appeler l'enfance, hein, voilà, où ils y sont encore un petit peu en sixième, un petit peu moins cinquième, mais en quatrième, on sent vraiment un changement de mentalité chez nos élèves, une ouverture beaucoup plus importante sur les réseaux sociaux, sur les téléphones portables, etc. Et donc, à partir de là, ces thématiques-là peuvent avoir une résonance beaucoup plus particulière chez ces élèves-là. Ces interventions, elles auraient de l'importance en 6e, en 5e, mais en 4e, les élèves sont encore plus en capacité de comprendre ces thématiques parce que, au quotidien, ils vont y être davantage confrontés.
Ici, le bus de l'égalité et ces semaines de l'égalité se tiennent pour cette année 2021 à l'automne. Habituellement, c'est plutôt au début du printemps. Le fait d'amorcer une année comme ça dans l'établissement, est-ce que c'est un test, on va dire, mais est-ce que finalement, vous n'allez pas poursuivre régulièrement ces rendez-vous en parlant finalement de ce qui se passe, non pas au sein du collège, mais un peu de partout dans la vie ?
Bien sûr, c'est évident. On se rend compte que plus on commence les choses tôt dans l'année, plus on peut les développer davantage aussi, on peut les développer davantage derrière. On essaie d'anticiper davantage notre calendrier d'action. pour éviter que, voilà, que le temps nécessaire derrière à la réflexion, à la reprise, peut-être à une autre intervention, ne puisse se faire. Hein, voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait ça plutôt dans l'année. Hein.
Si l'on parle de harcèlement, il vit aussi dans le quotidien d'adolescents par les réseaux sociaux et leur pratique du numérique, où il devient cyberharcèlement. Au sortir d'une discussion sur ce sujet, Wided et Izette, tous deux élèves de 4e, nous décrivent ce phénomène.
Qu'il y a beaucoup de discrimination, par exemple raciste, islamophobe, le sexisme aussi, discrimination contre les femmes, la religion, l'orientation sexuelle et les postes de photos.
D'accord. Alors les postes des photos, effectivement, on a vu des films. De quoi parle-t-on quand quelqu'un envoie une photo intime à quelqu'un d'autre et qu'ensuite cette photo se retrouve partagée publiquement ?
C'est pas bien pour la personne qui a envoyé la photo.
Les petits films qui ont été diffusés, qu'est-ce qu'ils présentaient ?
Eh bien, ça présentait des photos qui sont plutôt pas publiques, qui ne font pas publier.
Alors ?
C'est des photos de nudes. Eh bien, c'est une personne qui a publié une photo de quelqu'un qui avait envoyé une photo à son copain.
D'accord. Donc l'histoire, finalement, c'est de trahir la confiance d'une personne.
C'est ce que le petit ami a fait à sa copine, il l'a trahi en publiant sa photo sur Internet et l'envoyant à tout le monde.
Vous, en tant qu'adolescent, aujourd'hui, est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux ?
Oui, y a Snapchat, Instagram et TikTok.
D'accord. Quand vous allez sur ces réseaux-là, qu'est-ce que vous recherchez ?
On parle sur Snapchat, on parle plutôt avec nos amis. Sur TikTok, on regarde des vidéos et tout. Et Insta, c'est pareil, on regarde des vidéos et on fait rien.
Un réseau social, vous vous en servez pour communiquer. Est-ce que tout le monde a accès à vos réseaux sociaux ?
Non. Par exemple, sur Instagram, on a des demandes, donc on peut accepter les gens avec qui on veut parler et les gens qui peuvent regarder notre contenu, et surtout les réseaux sociaux aussi.
L'utilisation que tu en fais, tu me le disais, est-ce que tu en parles autour de toi, si tu vois des choses qui sont choquantes, est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir des choses qui n'étaient pas appropriées sur ces réseaux sociaux ?
Oui, ça m'a déjà arrivé, oui. Du crime ou des toutes sortes de choses comme ça. Et c'est dans tous les réseaux.
Ouais.
Ça circule de partout en fait.
D'accord.
Bah, il y a des gens qui se font tirer dessus ou sont coupés la tête et tout, des fois. C'est des choses comme ça.
Quand on constate quelque chose qui n'est pas approprié sur un compte qu'on peut avoir sur Instagram, sur Snap, est-ce que vous en parlez ?
J'en parle plutôt à mes amis ou. Entre amis, quoi.
Élodie Hébrard travaillait à la Ligue de l'Enseignement. Elle est chargée de mission en éducation aux médias et au numérique. D'ailleurs, ces réseaux sociaux, comment on en parle face à des adolescents ?
Alors, c'est un sujet qui est très complexe. Nous, à la Ligue de l'Enseignement, on ne parle pas de danger, on va parler de bons usages. On va toujours, on va dire, utiliser un langage plutôt positif. Alors, effectivement, il y a plusieurs aspects. Hein. Vous l'avez souligné, on intervient sur le cyberharcèlement, donc on balaye un petit peu leur usage des réseaux sociaux et puis on s'appuie sur des outils pédagogiques, des jeux qui leur renvoient un petit peu leurs pratiques et qui les amènent aussi à s'interroger. Et puis des supports vidéo, des échanges débats. Et en fait, on s'aperçoit quand même que les ados sont pas si peu outillés que ça, mais ils sont dans la phase de l'adolescence. Donc il y a aussi des choses qui font que l'adolescence, il y a des pratiques, des choses qui nous questionnent. Voilà, donc on essaie de leur faire prendre un petit peu conscience de tout ça, mais ils savent quand même certaines choses.
On parle ici, dans ces séances-là, de l'intime, de la vie privée. On parle également de rancœur, de vengeance. La façon de présenter, quelle est-elle ? Qu'est-ce qu'on utilise ? Et puis, les réactions qu'on a, comment on travaille avec ces réactions ?
Eh ben, on rebondit en fait hein, sur différentes réactions. Donc parfois il y a des choses effectivement qui nous interpellent en tant qu'adultes et où on se dit que plus que jamais la prévention a son utilité. Sur la thématique du cyberharcèlement, on rebondit beaucoup sur des nouvelles pratiques, des nouveaux phénomènes comme le partage de photos en fait, hein, les nudes qui ciblent quand même assez souvent les jeunes filles. Vous parliez de vengeance tout à l'heure, un autre phénomène qui s'appelle le revenge porn, le jour où la relation n'existe plus entre une fille et un garçon. Le garçon peut avoir tendance à lancer quelques photos sur des réseaux sociaux ou à son carnet d'adresses. Ça, c'est compliqué et c'est vrai que très souvent dans les animations qu'on fait, on le voit, le groupe a tendance à faire porter la responsabilité sur la jeune fille. Si elle n'avait pas partagé la photo, ce ne serait pas arrivé, quoi. Voilà. Donc on essaie de leur faire prendre conscience de la différence entre partager quelque chose d'intime avec une personne et la personne qui reçoit la photo a toute sa responsabilité en partageant avec tout le monde. Donc une fois qu'on distingue un peu les deux et qu'on ramène au cadre légal... Très souvent, on fait ça aussi. C'est un peu plus clair. Mais c'est vrai que, voilà, ça, c'est quand même... On est sur aussi des pratiques avec lesquelles on tâtonne un peu. On avance au fur et à mesure. Parfois, on est rattrapé par tout ça aussi. Et eux aussi, je pense. Hein. Enfin, ça va très, très vite. Mais on essaie, voilà, d'éclaircir un petit peu tous les propos qui peuvent être tenus. On essaie de ramener aussi à du cadre légal.
Alors vous intervenez en collège, en lycée, voire même vers d'autres publics. Si vous devriez catégoriser ou donner un trait spécifique à une classe d'âge, qu'est-ce que ce serait ?
En fait, on n'intervient pas tout à fait... Bon, j'ai envie de dire chaque gamin, chaque enfant, bien sûr, est différent, chaque ado aussi. Nous, on intervient très largement, on va dire, des tout-petits avec la gestion des écrans, où là, il y a, l'importance liée à la parentalité numérique, tout cet accompagnement-là. Chez les ados, on va effectivement peut-être plus cibler sur le cyberharcèlement parce que arrivée du téléphone... Très souvent en classe de 6e, donc, et puis très souvent, j'ai envie de dire aussi, réseaux sociaux avant 13 ans. Donc il y a cet accompagnement-là. Lycée, si on devait un petit peu catégoriser les choses, on va plutôt intervenir sur l'impact du numérique sur la sexualité des ados, c'est-à-dire toute cette éducation à la sexualité qui est faite avec la pornographie. Voilà, si on devait un petit peu catégoriser les différentes tranches d'âge, on serait plutôt là-dessus. Mais voilà, après, il n'y a pas de généralité non plus, mais c'est un peu notre axe, quoi. Voilà.
Alors sortons un peu de ces établissements scolaires. Est-ce que vous intervenez vers les publics adultes, l'éducation, donc la parentalité, l'accompagnement de ces enfants à l'utilisation de ces outils numériques? Comment ça se passe?
Oui, alors tout à fait, on intervient. Alors effectivement, il y a tout ce qui est milieu scolaire, hein, où on arrive aussi à toucher les parents en lien avec les établissements. Mais le principe de la Ligue de l'enseignement, on est une structure d'éducation populaire. Hein, donc c'est l'éducation pour tous, par tous, tout au long de la vie. On éduque au numérique, par le numérique. Et ça s'étend, de la petite enfance jusqu'au senior. Donc on a des interventions vraiment très variées et dans différentes structures. Donc ça va être des centres sociaux, des maisons de quartier, un service jeunesse d'une collectivité territoriale, centre de loisirs, on a plusieurs façons d'articuler les choses. Les interventions en face à face, avec tout ce que je viens de vous expliquer, la formation des professionnels, donc former les animateurs, les éducateurs, les enseignants parfois, à utiliser certains outils pour déployer du numérique, eux directement. Et ensuite, on a des interventions plutôt en mode échange, conférence, débat, auprès de parents, auprès parfois de seniors, sur différentes thématiques, plus en lien avec la santé et le numérique. Voilà, après, ça va dépendre un petit peu.